voire maintenant. Je crois qu'en tout cas, je suis d'accord avec vous que la liberté est véritablement un critère essentiel pour les directions à prendre. Enfin, pour moi, elle est certainement. Et je pense que rien de bon ne se créera en dehors de la liberté. Et mais je pense, encore une fois, que le dépérissement de la science actuelle, en fait, augmentera notre liberté. Ça ne se fera pas au dépens de la liberté de qui que ce soit.
Mais vous ne supprimez pas par là.
Je m'excuse.
Oui.
Ce que je pense être intrinsèquement l'homme, cette cohabitation du démon et de l'ange, même si elle est un jour dans une société, c'est ça propre.
Je ne crois pas que cette dichotomie du bien et du mal, que l'homme est comme ça, il y a un mélange de deux principes opposés, je ne partage pas cette façon de voir. Si vous me permettez, je vais faire une petite digression philosophique concernant le mode de pensée mathématique et son influence, je crois, sur la pensée générale. Parce qu'il y a une chose qui m'a déjà frappé avant d'en arriver à une critique d'ensemble de la science, qui m'a frappé depuis près de 2 ans, c'est la grossièreté, disons, du mode de raisonnement scientifique, du mode de raisonnement mathématique, quand on le confronte avec les phénomènes de la vie, disons, avec les phénomènes naturels. C'est que les modèles que nous fournit la mathématique, y compris les modèles logiques, sont une sorte de lit de Procruste pour la réalité. Et une chose toute particulière, c'est qu'en mathématiques, chaque chose, chaque proposition, bon, si on met à part des subtilités logiques, chaque proposition est ou bien vraie ou bien fausse. Il n'y a pas de milieu entre les deux. C'est la dichotomie totale. Et en fait, ça ne correspond absolument pas à la nature des choses. Dans la nature, dans la vie, il n'y a pas de choses qui soient absolument vraies ou absolument fausses. Il y a très souvent même, pour bien appréhender la réalité, on doit prendre en ligne de compte, des aspects en apparence contradictoires, en tout cas des aspects complémentaires, disons, de la réalité, et tous les deux sont importants. Et dans un point de vue plus élémentaire, disons, une porte n'est jamais entièrement fermée ou entièrement ouverte, ça n'a pas de sens. Et disons, cette dichotomie qui provient peut-être de la mathématique, de la logique aristotélicienne, elle a vraiment imprégné, je crois, nos modes de pensée, y compris dans la vie de tous les jours, y compris dans n'importe quel débat d'idées ou même de vie personnelle. C'est une chose que j'ai souvent remarquée en discutant avec des personnes, que ce soit des discussions privées ou publiques, c'est quand, en général, les personnes voient deux alternatives extrêmes, ne voient pas de milieu entre les deux. Si moi, je leur parle d'une vision personnelle, disons, mettons que la personne en question, mon interlocuteur, ce soit cette alternative qu'il a choisie, et elle voit une autre au bout opposé, mettons que moi, j'ai une vision qui se situe un peu au-delà de celle qu'il considère bonne, tout aussitôt, elle m'accusera d'avoir choisi l'alternative extrême opposée, parce qu'il n'y a pas de milieu. Je crois qu'il y a une vis de pensée qui est inhérent au mode de pensée mathématique. Et j'ai l'impression qu'il se reflète également, peut-être, dans cette vision manichéenne de la nature humaine, où il y a d'une part le bon, d'autre part le mauvais, et puis, bon, dans le meilleur des cas, on les voit cohabiter. J'ai l'impression, en fait, que ce que nous appelons mauvais n'est qu'une réaction naturelle à un certain nombre de répressions que nous subissons depuis notre naissance, et que, en un sens, ce sont des réactions tout aussi naturelles, tout aussi nécessaires que, par exemple, l'apparition de fièvre dans notre corps, qui est un signe que notre corps est en train de réagir vigoureusement et positivement à une invasion microbienne. Alors, la tâche du médecin n'est pas d'éliminer la fièvre, mais d'essayer de combattre l'invasion microbienne par des médicaments. Ceci, tout au moins, est la thèse officielle, et peut-être la tâche du médecin de l'avenir sera surtout de comprendre la cause psychosomatique, disons, pourquoi il y a eu invasion microbienne à tel moment, alors que les microbes, il y en a toujours dans l'environnement, et alors que nous y sommes exposés tout le temps, pourquoi il n'y en a pas eu avant, quelles sont les causes véritables, quelles sont les tensions auxquelles nous avons été soumises. Enfin, ceci, c'est une autre paire de manches. Mais donc, J'ai l'impression que la vision manichéenne n'est pas très bonne. Elle fait partie de l'air que nous respirons avec la culture ambiante, et je crois que cette vision va également se modifier.
J'ai envie de mettre ce point de vue à l'envers. Vous pensez que cette vue qu'il y a du oui ou du non, du juste ou du faux, c'est de l'air que nous respirons et qui vient de la mathématique. Moi, je pense plutôt le contraire, que la mathématique moderne, elle est plus jeune que toute notre philosophie et que c'est peut-être venu de la philosophie médiévale ou même de la théologie, parce que cette pensée qu'il y a le bon Dieu, le diable, les deux adversaires, elle est très ancienne. Et il se peut que les mathématiciens médiévaux, 15e, 16e siècle, ils étaient tellement imprégnés de cette idée que c'était naturel de penser comme ça. Et l'autre exemple que vous avez proposé du médecin, je pense qu'avant que la médecine était au même point qu'elle est actuellement, on essayait aussi d'expulser des mauvais esprits et des diables, donc c'était la même idée. Alors, je voulais juste vous mettre en doute ça, parce que je le vois juste à l'envers. Et je me demande, l'autre, disons le troisième point, c'est la question, est-ce qu'on fait quelque chose en digital ou analogique? Une question qu'on se pose sur tous les niveaux. Digital, ça veut dire de nouveau binaire, oui ou non, et c'est très à la mode. Donc, peut-être qu'on peut dire l'idée venait de la philosophie ancienne, passée par la mathématique, et est jusqu'ici répandue dans cette troisième forme. Et prenons l'autre, prenons juste la gamme que vous avez préféré aussi. Mais je ne dirais pas que c'est un vice qui est dû à la mathématique seulement, mais je dirais peut-être qu'elle a hérité ça déjà du passé. C'est une question.
Je crois que là, on situe généralement l'origine de la mathématique non pas avec Bourbaki, par exemple, mais je crois que, Bourbaki l'a fait remonter, dans ses notes historiques, l'a fait remonter aux mathématiciens grecs, disons, à partir de Pythagore. Donc, c'est une tradition assez ancienne et qui, finalement, prenons par exemple Euclide, qui a incorporé cet esprit systématique de façon particulièrement parfaite, telle façon que Euclide a été enseigné directement, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps encore. Alors, bon, il est donc possible que la mathématique y soit pour quelque chose dans cet état d'esprit, même s'il n'y a, je ne veux pas jurer qu'il y ait effet de causalité, mais le fait, que les deux choses aillent dans le même sens, disons que la dichotomie mathématique et le manichéisme, ou cette tendance de voir toujours les deux extrêmes d'une alternative, ça ne peut guère être le hasard. Certainement, il y a corrélation entre les deux. C'est-à-dire que ce sont des choses liées dans la culture dominante. Cette culture dominante, de toute façon, elle ne date pas d'hier. Je pense qu'elle s'est développée depuis plus de 2000 ans. Je ne suis pas très, très savant, très ferré en histoire, mais, par exemple, des gens comme Jacques Ellul ou comme Lewis Mumford ont étudié précisément les tenants et aboutissants idéologiques de la science, de la technologie depuis les origines. Et en ce qui concerne Lewis Mumford, il me semble qu'il les situe déjà, il les fait démarrer, je crois, du temps des pharaons, des grands travaux de l'Égypte. Donc je crois que nos ancêtres à ce sujet remontent assez loin. Mais il y avait une autre question, je crois, non? Non? Il n'y avait pas une autre question?
J'ai aimé de votre la
partie qui sert des, si vous voulez, des démystifications, des dénonciations du rôle de la science et surtout de la motivation du scientifique. Même si ça est peut-être incomplet. Je crois que, par exemple, on pourrait discuter longtemps et noter le rôle important qu'à mon avis est la science dans la conservation même des structures sociales de notre société. J'ai trouvé un peu préoccupante la sorte d'interprétation que pourrait découler de votre exposé sur les solutions qui peuvent être trouvées à cette difficulté. La solution de se retirer, disons, du travail, qui finalement est la raison pour laquelle la société vous paye, est une solution de luxe qui peut être accessible à très peu de gens et qui ne peut pas être érigée en solution. À mon avis, si un ouvrier, ça veut dire se retirer du travail pour se sensibiliser, c'est une chose qui vraiment est impossible. À mon avis, si un ouvrier ne se sensibilise pas, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas envie, on ne comprend pas lesquels sont vraiment les vrais problèmes. C'est parce que l'écrasant poids de la société et des rythmes de travail, des conditions de vie auxquelles il est soumis, ne lui offre aucune autre possibilité. À mon avis, ce n'est pas les symptômes qu'il faut curer. À mon avis, c'est la maladie. Et la maladie est entièrement basée dans la structure sociale. À mon avis, c'est seulement en participant à ces changements, et ces changements de structure, qu'on pourrait un jour envisager de trouver un rôle nouveau, soit dans la sensibilité de chacun, soit un rôle nouveau de la science même. Et ce n'est pas en faisant un peu de théorie ici, n'est-ce pas, sur quel est le rôle de la science qu'on peut, qu'on pourra trouver notre place. Je crois que la participation à cette lutte, c'est difficile donc, pour un scientifique, parce que justement la satellisation, si vous voulez, la balkanisation des activités sociales la rend difficile. Mais je crois que c'est seulement cette participation. Et à partir de son poste de travail, le poste de travail est l'arme de tout le monde, je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour un scientifique. À partir de son poste de travail, je crois que c'est la seule solution pour laquelle un scientifique peut vraiment participer à quelque chose qui soit utile pour un changement.
Voilà. Je pense qu'il y a eu malentendu, en ce sens que vous croyez que je préconise telle ou telle solution. Alors effectivement, j'ai parlé de mon expérience personnelle, ma pratique personnelle, à titre d'illustration d'un type d'action, de conclusion qu'on peut tirer par une fois qu'on est confronté avec certaines contradictions. Mais ce n'est absolument pas dans l'intention de me poser un modèle pour qui que ce soit, parce que je réalise bien que les conditions dans lesquelles sont placés les uns et les autres sont extrêmement différentes. D'une part, les conditions dites objectives, mais aussi les conditions subjectives, disons, l'état de préparation à prendre des pas, des pas assez draconiens, comme celui que j'ai pris en quittant l'institut dans lequel j'ai travaillé une fois, et puis un peu plus tard en décidant d'arrêter la recherche scientifique, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que je suis quand même payé encore pour enseigner, pour l'année dernière, cette année-ci, pour enseigner précisément de la science très ésotérique au Collège de France, et que l'an prochain, je serai ou bien, probablement tout au moins, ou bien enseignant à la faculté des sciences d'Orsay, ou bien je serai directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique. C'est-à-dire, je n'aurai pas échappé à la contradiction de mon état de scientifique. Et finalement, je crois que ce qui compte pour moi, ce n'est pas tellement d'atteindre à une position de pureté morale qui est parfaitement impossible à l'intérieur de la société. C'est une des nombreuses choses que j'ai apprises au cours de ces deux dernières années. Ce qui compte, c'est que nous soyons un ferment de transformation, un facteur de transformation là où nous nous trouvons. Et alors, si nous nous trouvons dans un certain milieu professionnel, il ne s'impose pas nécessairement que nous quittions ce milieu professionnel. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que cette transformation ne se fera pas par la vertu magique d'adhérer à un certain parti, ou de temps en temps de distribuer des tracts, ou d'adhérer à certains syndicats, ou de poser des bulletins de vote. Ça, je suis entièrement persuadé que ce genre de transformation se fera au niveau, pour commencer, des relations personnelles. Dans la mesure où ces relations personnelles ne changent pas profondément, rien ne changera. Parce que si on dit que les relations personnelles ne peuvent changer qu'une fois que les structures auront changé, ce qui signifie qu'on remet tout au grand jour J de la révolution, eh bien à ce moment-là, la révolution ne viendra jamais, ou la révolution qui viendra ne changera rien. C'est-à-dire, elle mettra une équipe dirigeante technocratique à la place d'une autre équipe technocratique, et la société industrielle ira son train-train comme par devant. Alors, je pense comme exemple de relations qui devront changer de façon essentielle, par exemple, les relations entre les enseignants et les étudiants. Je peux continuer un petit peu parce que je vous perdais de vue. Et c'est ça, j'avais peur que vous quittiez la salle avant que j'ai terminé de répondre. C'est ça. Alors, je vais être confronté dès cet automne à cette situation, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, d'être dans un amphithéâtre avec des étudiants auxquels je dois pour de bon enseigner les mathématiques, qu'ils vont les préparer à certains examens, leur procurant certains diplômes dont je suis, pour ma part, convaincu que ce sont des connaissances qui ne servent à rien. D'une part, qui ne servent à rien pour la société dans son ensemble, mais d'autre part, dont il n'est même pas clair qu'ils servent à quelque chose à ceux qui vont avoir ce diplôme, parce qu'il n'est absolument pas clair que cela permettra d'avoir un métier par la suite. Donc, alors, ce que font la plupart encore des scientifiques, c'est que, ou bien ils se refusent de voir le problème, ou bien, s'ils le voient, ils posent un voile public par-dessus ce problème dans leur relation avec les étudiants. Et les relations entre les étudiants et eux, ce sont les relations d'enseignants et les relations traditionnelles d'enseignants à professeurs, c'est-à-dire, ils font un cours technique, celui qu'on leur demande, un point c'est tout. Lorsque, exceptionnellement, les étudiants posent des questions techniques, on répond à ces questions techniques, du mieux qu'on peut, et c'est ça. En ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas m'en tenir à ce type de relation et ne plus séparer l'enseignement mathématique d'une discussion à carte découverte, à visage découvert, avec les étudiants ou tous ceux qui voudront venir assister à la discussion, pour essayer de faire le point, pourquoi est-ce que nous sommes là, qu'est-ce que nous allons apprendre ensemble, pourquoi, que signifie l'examen qui est au bout du programme de cette année. Quel est son sens? Quel est notre rôle mutuel, moi professeur et vous étudiant? Et décider ensemble sur ce qu'on fera. Alors, probablement, dans les quelques années qui viennent, à moins que la situation ne mûrisse encore plus vite que je ne le prévois, il est probable que les étudiants, dans la majorité, insisteront pour qu'on suive, une fois ces discussions terminées, pour qu'on suive plus ou moins le programme traditionnel et qu'on fasse le rituel d'usage concernant les examens. Il est possible aussi qu'il en décide autrement, auquel cas je me plierai à leur avis. De toute façon, il y a là, disons, une possibilité d'un échange dynamique, d'un mûrissement de l'atmosphère, de l'atmosphère générale. En fait, j'ai commencé à mettre cette pratique en pratique cette année même au Collège de France, puisque j'avais annoncé comme première partie d'un cours de mathématiques que je fais au Collège de France cette année. Comme première partie du cours, j'avais prévu précisément une discussion sur le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Allons-nous continuer la recherche scientifique? Alors, cette proposition de partie d'un cours de mathématiques a donné lieu à un débat assez vif parmi mes collègues au Collège de France. Et en fait, pour la grande majorité d'entre eux, c'était une chose absolument impensable qu'un cours de mathématiques puisse être partiellement et officiellement consacré à une question de ce type. En fait, il y avait comme première... Enfin, le titre était plus long. Sciences et techniques dans la crise évolutionniste actuelle. Allons-nous continuer la recherche scientifique? C'est-à-dire, je posais la question, disons, de la crise de civilisation, qui me semble la question urgente à débattre actuellement. Eh bien, on est arrivé à la situation contradictoire, et c'était un peu celle que je voulais pour mieux faire éclater certaines contradictions, à savoir que peut-être pour la première fois ou une des rares fois que dans cette auguste institution, on pose une question véritablement brûlante pour, disons, la civilisation dans laquelle nous sommes placés, une question de crise intense, eh bien, la première fois qu'on se propose de la discuter publiquement et en profondeur, eh bien, c'est pratiquement la seule fois où le corps professoral réuni refuse de donner l'approbation à ce sujet de cours. Parce qu'en fait, le vote a donné quelque chose comme 35 votes contre, pour 9 votes pour, et j'ai été moi-même surpris de trouver 9 collègues pour soutenir mon initiative, et cette surprise n'était pas, je suis convaincu, était encore beaucoup plus grande chez les 35 autres, parce que le ton dans lequel avait lieu cette discussion était tel qu'il était clair que pour eux, il était impensable qu'un scientifique, dans son sens commun, puisse ne pas être choqué par le genre de proposition que je faisais pour ce cours, soi-disant, de mathématiques. Alors, ceci, juste à titre d'exemple, non pas pour dire que tout le monde doit maintenant faire exactement la même chose, mais juste à titre d'un exemple concret de ce que moi, personnellement, j'essaye de faire pour tirer parti d'une situation certainement contradictoire, mais au lieu d'essayer de cacher ces contradictions, les faire éclater le plus brutalement possible, et ceci comme un moyen de faire mûrir une certaine situation.
Constamment à la recherche scientifique, mais j'ai l'impression que vous donnez au terme une signification très restreinte. J'ai l'impression que pour vous, c'est les mathématiques, bien sûr, ensuite la physique, quelque chose comme ça, à la rigueur, la recherche médicale. Mais il semblerait, n'est-ce pas, que vous ignorez qu'il y a la recherche en sciences sociales, la recherche en sciences de l'homme. Alors, alternativement, vous parlez en termes apocalyptiques de ce qui va arriver à la société, à la civilisation, comme si c'était quelque chose qui devait arriver fatalement et de façon incontrôlable par l'homme. Alors, que nous les voulions ou non, ça c'est contrôlable par l'homme. Et ça, il y a des hommes qui s'occupent à contrôler ça dans le sens qui est bon pour eux. Alors, s'il vous intéresse, monsieur, de réfléchir, n'est-ce pas? Pardon? Pour ne pas citer des exemples compliqués, les agences publicitaires, ils savent très bien, monsieur, par exemple, comment vous bourrez le cerveau, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vous les bourrent dans le sens que vous voudrez? Alors, et ça pour ne pas parler de choses beaucoup plus graves, n'est-ce pas, que la consommation du Coca-Cola ou de Pepsi-Cola. Alors, vous parlez alternativement, dans des termes apocalyptiques, n'est-ce pas, de ce qui doit arriver comme quelque chose d'incontrôlable pour l'homme. Et là, je crois que vous avez tort, parce que vous, si vous voulez modifier la société dans un sens, et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut la modifier. Je ne suis pas si c'est certain que c'est dans le même sens, mais en tout cas, on est d'accord sur le principe, quoi. Alors, et je crois qu'il faudrait faire cette science maudite, n'est-ce pas, comme disait le monsieur, pour pouvoir nous aussi la contrôler, cette évolution que vous présentez avec des caractéristiques de fatalisme. Et d'autre part, n'est-ce pas, lorsque vous dites que vous allez discuter avec les étudiants, et quels sont les rapports avec les étudiants, vous allez faire une science de l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a des phénomènes qui s'appellent par exemple la communication pédagogique, qu'on étudie avec des méthodes scientifiques. Ce n'est pas les mathématiques, mais c'est la science, n'est-ce pas? Alors, je crains que fatalement vous retombez soit dans la religion, soit dans la science. Parce que, ou bien vous faites des prophéties apocalyptiques, ou bien vous essayerez de faire avec vos étudiants un début, n'est-ce pas, des sciences, à réinventer les sciences qui ont déjà faites.
Alors, vous parliez, c'est ça, d'une vision apocalyptique de la civilisation. Et c'est un terme qui revient souvent quand on parle de la civilisation. C'est toujours ce même conditionnement qui nous fait concevoir qu'il y a une civilisation, comme s'il n'y avait pas eu des centaines, et comme s'il ne va pas y en avoir des centaines d'autres. Donc déjà, un premier point que je voudrais donc remettre en place, dans ma vision tout au moins, c'est qu'il s'agit d'une certaine civilisation, qu'on peut fort bien récuser d'ailleurs, et dont on peut fort bien prévoir qu'elle va disparaître, comme bien d'autres civilisations ont disparu. Donc, en fait, lorsqu'il y a à peu près 2 ans, j'envisageais non pas la disparition de la civilisation, parce que je l'identifiais encore, j'étais encore trop prisonnier de ces conditionnements, j'identifiais la civilisation, la seule que je connaissais, avec l'humanité, et la destruction de cette civilisation m'apparaissait effectivement sous une image apocalyptique de fin de l'espèce humaine, mais j'ai expliqué, il y a une demi-heure ou une heure, j'ai expliqué que cette vision a entièrement changé. Maintenant, disons,
l'écroulement de cette civilisation n'est pas une vision apocalyptique, c'est, disons, quelque chose qui me semble hautement souhaitable, et je considère que c'est notre grande chance qu'il existe, disons, une base biologique de la société humaine qui se refuse à suivre la voie de la civilisation industrielle dominante, que finalement, c'est, disons, la crise écologique qui va nous forcer, que nous voulions ou non, à modifier notre cours et à arriver à développer des modes de vie, et inclus des modes de production, bien entendu, qui soient radicalement différents de ceux des modes de production prédominants. Alors, d'autre part, vous parlez du rôle des sciences humaines en disant que il n'y a pas que les sciences dites exactes, les sciences physiques, et je le sais bien, vous savez aussi comme moi d'ailleurs, et ça c'est une critique très sérieuse, je crois, qu'on peut faire aux sciences humaines, c'est qu'elles essayent de plus en plus à se mouler suivant le modèle des sciences dites exactes, sciences mathématiques en particulier, de telle façon que de plus en plus les sciences humaines, dans la mesure où elles veulent accéder au véritable statut scientifique, et puisque seule la science, d'après les normes universellement admises jusqu'à maintenant, est considérée comme sérieuse, on enferme ces sciences humaines de plus en plus dans un jargon souvent mathématique. On connaît l'influence des tests numériques, des méthodes numériques pour traiter la psychologie, par exemple. Il est peut-être, on pourrait dire aussi que pas mal de traités d'économie, de gros traités, c'est ça, commence par un deux tiers de ce livre qui développe des pesants formalismes mathématiques qui a comme seul but de les rendre incompréhensibles au commun des mortels. En fait, par une personne interposée qui est un proche ami de moi, donc qui a parlé avec un professeur d'économie de Bordeaux, il lui a dit textuellement qu'en fait, le but de ce formalisme mathématique dans un livre de sa composition, c'était de cacher le fait que le contenu scientifique véritable pouvait être compris par n'importe quelle personne ayant le niveau d'instruction du certificat d'études. Bon, alors, donc je crois que en fait, on peut faire un reproche très très sérieux aux sciences humaines dans cette direction. D'autre part, je pense que les sciences humaines, concernant les détournements sans l'objet, elles sont soumises aux mêmes critiques que les autres sciences. Par exemple, dans l'avant-dernier numéro de Survivre, on donne pas mal de détails sur l'utilisation de l'anthropologie dans la guerre dans le sud-ouest asiatique. En fait, la science anthropologique américaine, en grande partie, est au service des militaires pour arriver à quadriller les populations indigènes en Asie du Sud-Ouest, pour arriver à étudier par ordinateur l'impact que pourrait avoir telle politique ou telle autre, la politique de brûler les récoltes, par exemple. Est-ce que les effets seront plus bénéfiques vis-à-vis de l'implantation américaine, ou est-ce qu'au contraire, les ressentiments pourraient l'emporter? Disons, il y a des études comme ceci qui sont faites sur le terrain par les anthropologistes. Donc, je crois que finalement, il n'y a pas tellement de différence à faire du point de vue du rôle pratique et idéologique entre les sciences humaines et les sciences dites exactes, les sciences naturelles, disons.
Je voudrais vous demander simplement quels sont les buts du mouvement Survivre et quels sont les contacts que vous avez avec des mouvements existants dans la région comme le mouvement Budget Cobaye.
Bon, les buts du mouvement Survivre, au début, notre vision donc était apocalyptique et nous avions pris comme but de lutter pour la survie de l'espèce humaine menacée par les conflits militaires, les dangers des conflits militaires et par la crise écologique provenant bon, de la pollution et de l'épuisement des ressources naturelles. Bon, mais au cours donc d'un an et demi d'existence, nous avons pas mal évolué, et je pense qu'on pourrait formuler la façon dont la plupart d'entre nous voient notre but, c'est d'aider à préparer le passage d'un type de civilisation à un autre. Par, disons, par des transformations qui puissent s'effectuer dans l'immédiat. Alors jusque maintenant, notre travail a été surtout un travail critique. Néanmoins, ça fait assez longtemps, ça fait 6 ou 9 mois, que nous voyons assez clairement qu'il faut arriver à dépasser le travail critique pour arriver à faire quelque chose en direction constructive, par exemple, disséminer de l'information sur le mouvement communautaire, sur le développement de techniques, de technologies légères, de biotechnologies dans le sens des nouveaux alchimistes, disséminer de l'information sur des expériences d'éducation, sur des expériences d'école nouvelle du type de Summerhill, et des choses dans ce goût-là. Mais entre l'intention de le faire et, disons, la préparation du point de vue d'expérience, du point de vue contact, etc., il y a encore un pas, et je pense que cette transformation dans le contenu du journal et de notre action se fera comme ça progressivement au cours de l'année ou des années qui viennent. J'espère que d'ici une année, par exemple, au moins une moitié des publications que nous sortirons, que ce soit le journal ou autre chose, vont être dans cette direction constructive au lieu d'être purement critique. Alors, nos relations avec le comité budget cobaye, eh bien, nous sommes en bonne relation avec eux. On a été cinq membres de Survivre à participer à la grande fête manifestation de budget cobaye au mois de juin dernier. Nous sommes en relation assez suivie avec eux. Personne d'entre nous directement, mais si on a même eu quelqu'un, c'est ça qui a été ensuite à la sorte de permanence, de sit-in permanent qu'il y a eu devant la centrale de budget cobaye pendant un mois ou deux en automne dernier. C'est un adhérent qu'on a eu, Léraud, qui est rédacteur du Court Papier, qui est un petit journal écologique régional pour la Provence. Alors, disons, du point de vue pratique, une des choses utiles que nous pouvons faire, enfin je vois, disons, comme action spécifique que nous pouvons faire, d'une part parce que nous sommes beaucoup de scientifiques à l'intérieur de Survivre, je crois que nous sommes mieux placés que beaucoup d'autres pour contribuer à dénoncer un certain nombre de mythes de la science. Et nous avons commencé vigoureusement dans ce sens à partir du numéro 9 de Survivre, dont l'éditorial est consacré à une description critique de l'idéologie scientiste. Le titre de l'éditorial est « La nouvelle Église universelle ». La nouvelle Église universelle, donc, c'est ça. Alors, à un autre point de vue, nous pensons qu'il y a un phénomène très important qui est en train de se passer, à savoir que depuis au moins une année, et de façon très intensive, je crois, depuis 6 mois ou une année, c'est-à-dire que des personnes, chacune isolée dans son coin, dans son milieu familial ou professionnel, qui commencent à être, disons, assez conscientes de l'existence d'une véritable crise de civilisation, elles se sentent donc isolées et de ce fait paralysées, eh bien, essayer de contribuer à créer un réseau de connaissances entre ces gens-là. Et en fait, ce que le réseau véritablement est en train de se constituer par l'intermédiaire de toutes sortes de facteurs. Je crois que, par exemple, les articles de Fournier dans Charlie Hebdo y contribuent. Je pense que l'existence de notre groupe y contribue également. D'ailleurs, cette phénomène de regroupement, pas de regroupement, c'est ça, de création de liens, d'un réseau de liens entre des entités d'abord isolées, ne s'applique pas seulement aux personnes, mais aussi aux groupes. Par exemple, pendant un bon moment, Survivre, ce groupe, croyait être le seul de son espèce à faire, par exemple, une analyse critique de la science. Or, nous nous sommes aperçus depuis qu'un peu partout, il y a des groupes analogues qui sont en train de surgir. Nous connaissons particulièrement bien le groupe LACI-TOC et un autre groupe aux États-Unis, Science for the People. Il y a d'autres groupes, d'ailleurs, qui se sont créés plus ou moins simultanément avec nous, sous le même nom, sur Survivor, aux États-Unis. Donc, ces groupes, finalement, qui chacun est parti d'un aspect spécifique du problème de la crise de civilisation, peu à peu élargissent leur point de départ jusqu'à arriver à des visions plus ou moins globales et à se rencontrer avec toutes sortes d'autres groupes qui parfois sont partis de points de départ différents. Et j'ai l'impression que ce processus extrêmement rapide va probablement être achevé dans l'année qui vient, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, n'importe qui dans la société occidentale, tout au moins, qui commence à sentir assez clairement que quelque chose ne va pas dans la, du point de vue civilisation, que la, qui commence à être étreint par un sentiment d'incohérence dans sa vie à lui, mais incohérence qui soit, disons, qui soit de type qui est une signification globale, eh bien, d'emblée, il lui sera impossible d'être isolé, il se trouvera immédiatement à se placer dans ce réseau. Donc ça, c'est une chose, je crois, ça c'est un processus auquel un groupe comme le nôtre peut très bien contribuer. Donc ce sont des choses assez modestes, disons, chacun le fait dans sa propre sphère, de, dans sa propre sphère de, d'activité. Mais comme il y a beaucoup de personnes et de groupes qui le font, finalement, l'effet global, je crois, n'est absolument pas négligeable.
Je pense que ça m'a l'air d'être une très bonne conclusion pour ces questions, parce que je crois qu'on peut continuer toute la nuit, mais bon, il faut bien trouver une fin. Je crois que, pour vous remercier beaucoup, parce que beaucoup de points très profonds étaient approfondis cette fois-ci, ont été traités, et beaucoup d'aspects de ces problèmes méritent certainement encore réflexion. Nous continuerons ce genre de discussion lors du passage d'un autre conférencier.
Juste, je peux ajouter quelque chose. Bien entendu, s'il y a des personnes ici présentes qui ont envie de continuer, disons, à discuter certains points, avec moi en particulier, je ne sais pas, est-ce qu'on peut le faire ici sur place? Ou est-ce que ça ferme à une certaine heure?
Non, il serait mieux de continuer alors en bas à la cantine.
C'est ça, ou bien si d'autres, c'est ça. Parce que, d'après mon expérience personnelle, dans ce genre de discussion, finalement, les discussions qui ont lieu par petits groupes après coup, une fois que la science est levée, sont plus fructueuses, sont plus intéressantes que la discussion générale, qui était particulièrement, ordonnée ici, mais qui en général est beaucoup plus anarchique, beaucoup plus chaotique. Je vois qu'on a affaire à des scientifiques, c'est-à-dire à des gens disciplinés.
Il y a plus pour vivre, on les a tous épuisés. Est-ce que vous pouvez en apporter un autre stock qu'on pourrait vendre à l'association éventuellement?
Mais je n'en ai pas ici. Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, oui. c'est un envoyer une autre fois.
Oui, d'accord. C'est ce que je vais écrire. Parce que vous pouvez écrire qu'il n'y en a plus et qu'il y en aura des
autres. On prend l'article dans le bulletin.
Comment?
Bon, il y en a plus.
Attendez.
Je vais voir.